Juste un moment de silence pour finir de vivre ce qu'on vient de commencer à vivre dans le culte et pour nous préparer à la suite. Parce que nous avons encore besoin d'être encouragés, nous avons encore besoin d'être concentrés, nous avons besoin encore d'être persévérants. Et nous ne sommes pas les seuls, parce que nous sommes à la fin du mois de mai. Et la fin du mois de mai, même tout le mois de mai, c'est la préparation des examens. La préparation du bac, la préparation des examens universitaires, les examens de passage scolaire, les examens de passage en vue d'une promotion professionnelle, les examens. Qui est-ce qui aime ou qui a aimé les examens? Il y en a un. Qui est-ce qui n'a pas aimé ou qui n'aime pas les examens? Qui est-ce qui déteste passer des examens? Si on n'aime pas les examens, c'est parce qu'ils représentent une certaine part de souffrance. Eh oui, il faut être concentré, il faut travailler, ça demande de la discipline. Il y a aussi le stress de la réussite ou de l'échec. C'est un poids, c'est une pression, et ça demande de la durée, c'est difficile, c'est de la souffrance. Voilà pourquoi on n'aime pas les examens. Alors, moi j'en entends certains qui se disent, de toute façon, moi, c'est fait, c'est fini. Je suis libérée, soulagement, derrière, c'est vrai? Oh, je prie bien pour ma petite fille, pour qu'elle passe ses examens. Je prie pour mon fils, pour qu'il réussisse. Mais moi, c'est bon. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, nous passons tous des examens. Tous les jours. Dans toutes les choses de la vie quotidienne. Dans tous nos défis quotidiens, même ce qui peut nous sembler insignifiant. Petits examens, gros examens. Petite souffrance, grosse souffrance. Mais tout ce que nous vivons est matière à être transformé par le Seigneur, pour lui ressembler toujours davantage, pour le connaître toujours mieux, pas seulement avec la tête, mais le connaître de l'intérieur, vivre ce qu'il a vécu, éprouver les sentiments qu'il a éprouvés, jusqu'à être totalement prêt pour le jour de son retour. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques, les versets 1 à 4. Je vais vous prêcher sur tout le premier chapitre de l'Épître de Jacques. C'est un résumé de toute l'Épître, ce premier chapitre. Et en fait, je vais même prendre surtout 4 versets qui sont le condensé de tout ce que le chapitre, de tout ce que la lettre nous explique. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques. Ce Jacques, c'est certainement le demi-frère de Jésus. Des Jacques dans la Bible, il y en a beaucoup. Mais ici, il y a beaucoup d'indices qui nous disent que c'est certainement le demi-frère de Jésus et ce Jacques était responsable de l'église de Jérusalem. Mais on est dans la période qui suit la lapidation d'Étienne. La persécution envers les chrétiens a commencé et toute l'église s'est dispersée. Ce qui fait que cette église de Jérusalem n'est plus à Jérusalem. Les gens sont partis dans les autres villes de Palestine, ils sont bien implantés en Palestine et certainement qu'ils se retrouvent en église de maison. Et c'est la raison pour laquelle Jacques ne peut plus s'exprimer comme ça à sa communauté, par oral, mais il leur écrit une lettre. Alors imaginez un peu, nous avons une personne parmi nous qui vient d'Ukraine. Imaginez des Ukrainiens chrétiens qui ont dû fuir leur pays à cause de la persécution. Et ils sont dispersés. Ils sont dispersés en Moldavie, en Hongrie, en France, en Suisse, ici à la Chaux-de-Fonds. Et imaginez que certains, puisqu'ils sont chrétiens, se mettent ensemble. Ils sont en église de maison. Et ils reçoivent un email de leur pasteur. Et leur pasteur leur dit, regardez ce qui vous arrive comme un sujet de joie et un sujet de joie complète. Choquant, non? C'est choquant. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Comprenez bien, Jacques n'est pas en train de dire « comprenez la souffrance que vous vivez comme un sujet de joie ». Non. Il est en train de dire « considérez l'épreuve que vous vivez comme un sujet de joie ». Alors, qu'est-ce que c'est l'épreuve? Eh bien, l'épreuve, en grec, c'est comme en français, ce mot, il a deux grandes significations. La première, c'est « examen », « test ». Épreuve de maths, épreuve de français, test de vocabulaire, ça c'est ce mot épreuve. Et il y a une deuxième signification, c'est la tentation. Les épreuves, comme des examens, ça vient de l'extérieur. Ça peut être Dieu qui nous met à l'épreuve d'une certaine manière. C'est pas Dieu qui envoie les maladies, c'est pas Dieu qui envoie la tragédie, c'est pas Dieu qui envoie la persécution. Mais lorsqu'elle est là, il nous permet de vivre un test, un passage. C'est l'occasion de vivre quelque chose avec Dieu. La tentation, par contre, elle est interne. La tentation, elle est nourrie par les désirs, par la convoitise. La tentation n'est pas un péché. Le péché, c'est de céder à la tentation. Ce sont des épreuves. Les épreuves, comme des examens, ça peut venir de l'extérieur, justement par la persécution, par des relations difficiles. Ça peut venir par des problèmes financiers, aussi des maladies. C'est pas que Dieu envoie les problèmes, mais c'est l'occasion de passer un test. Épreuve de maths, épreuve de français, épreuve du bac. À quoi ça sert les examens? Est-ce que ça sert à embêter les élèves? Mais non. Mais non, les épreuves dans le sens d'examen, ça sert à jauger où en est l'étudiant. Où est-ce qu'il en est? Quel est son bagage? Est-ce qu'il a assez de bagage pour passer au niveau supérieur ou pas? Si un étudiant n'a pas persévéré, il n'a pas fait son travail, il échoue aux examens, et on le fait quand même passer au niveau supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va nager, il va souffrir, il va aller d'échec en échec, il va abandonner. L'examen, il a du bon. L'épreuve, elle a du bon. À un moment donné, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Vous vous souvenez? Genèse 22, les versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu ne lui a pas envoyé une maladie. Il n'a pas envoyé une tragédie. Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose, de faire quelque chose de difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Abraham? Il a dû passer par tous les stades. Au niveau émotionnel, on peut juste pas imaginer ce que ça représentait. Mais Abraham, il a aussi dû mettre sa foi en Dieu. Abraham ne savait pas encore que Dieu était contre les sacrifices humains. Parce que la loi de Moïse, tu ne tueras point, elle était encore pas présente puisque Moïse n'était encore pas né. Donc Abraham, lui, il venait d'un peuple où les sacrifices humains se faisaient. Donc il devait connaître Dieu. Et il avait déjà entendu de la voix de Dieu, mais il la connaissait encore pas très très bien. Alors il a dû passer par tous les stades et il a dû décider à l'intérieur, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je n'obéis pas? Comment je me prépare? Comment j'en parle à Sarah? Comment je vais faire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ma démarche? On peut pas imaginer tout ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui. Mais il a décidé de faire confiance en Dieu. À un moment donné, il a dit « Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice ». Et Abraham est allé jusqu'au bout. Et au moment où il allait égorger son fils, Dieu intervient pour dire « Laisse ». Et Dieu lui donne un bélier. Et Dieu lui dit « C'est bon, t'as passé le test, t'as réussi l'examen ». Et cet examen, à quoi est-ce qu'il servait? Abraham est devenu le père des croyants. Abraham a réussi son test et que lui dit l'Éternel au verset 15 et suivant du chapitre 22? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à la voix du Seigneur, un peuple est né de ses entrailles qui a donné naissance au Messie et nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi Abraham devait passer le test. Pour passer à l'étape supérieure, pour devenir ce père spirituel de toutes les nations. Si Abraham avait échoué, c'est qu'il n'était pas prêt, c'est qu'il n'aurait pas supporté. Alors, dans la vie chrétienne, il y a deux manières d'aborder les épreuves. Soit on les aborde de manière réactive, par la réaction. Tout à coup, l'épreuve est là, on se la prend en pleine face. On est agressé par l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on fait? On réagit. On peut réagir par la colère, on peut réagir par l'angoisse, par la panique, on peut réagir par la triche. Si c'est une épreuve financière, on se met un peu à tricher aux impôts, on se met un petit peu à mentir, voire même aller jusqu'à voler. On peut réagir par de l'agressivité, commencer à être mauvais avec ceux qui sont en face de nous. Quand quelqu'un t'agresse, te dit une parole mauvaise, comment tu fais? Est-ce que, paf, tu lui rends l'appareil?
Oui.
Ça, c'est réagir. Ça, c'est subir, vivre l'épreuve par la réaction. Il y a une deuxième manière d'aborder l'épreuve. La considérer comme un test. Lui donner du sens, le sens dont parle Jacques. C'est l'occasion de vivre un test avec le Seigneur. C'est l'occasion de vivre quelque chose qui va me faire passer à l'étape supérieure. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors moi, je suis dans Louis II, j'ai le mot patience. Beaucoup d'entre vous, si vous avez une version plus récente, vous aurez persévérance. Et même si vous avez encore une version plus récente, vous aurez endurance. C'est le même mot, c'est la même famille. Peut-être que le terme le plus précis, c'est l'endurance. Parce que dans l'endurance, il y a la patience, il y a la persévérance, il y a la notion de durée, il y a la discipline, il y a le labeur, répéter, recommencer sur la durée, tenir ferme jusqu'au bout. C'est un peu comme la préparation pour un marathon. Si tu veux participer au marathon de New York, tu vas pas juste acheter ton billet d'avion. Tu vas pas juste payer ton ticket d'entrée pour pouvoir courir au marathon. Tu vas te préparer. Et tu vas te préparer de manière à ce que quand tu y seras, tu puisses vivre ta course jusqu'au bout, puis pas t'arrêter en plein milieu. C'est une course d'endurance. Ça va en demander de la préparation, et de la patience, et de la répétition, et du commencement. Et dans ta préparation, tu n'arriveras pas forcément directement à faire la quarantaine de kilomètres requises, mais tu iras petit à petit, en progression. Eh bien, c'est la même chose pour les examens scolaires. Ton vocabulaire, il n'est pas comme ça inné en toi. Je ne sais pas, mais moi, si je dois apprendre du voc allemand, je vais devoir y passer un certain temps. Eh bien, si tu n'apprends pas ton VOC, tu passes pas ton examen. Donc, tu peux pas passer au niveau supérieur. C'est pas toi qui vas aller enseigner l'allemand si tu sais pas le vocabulaire de l'allemand. L'examen, il est normal, mais tu dois y travailler, tu dois mettre de l'énergie. Et ça doit prendre du temps pour aller de progression en progression. Eh bien, c'est la même chose quand nous vivons des épreuves. Les épreuves, elles sont là, quand elles sont sous forme de tests, de nous faire tenir sur la durée. De nous faire tenir sur la durée jusqu'à ce que Jésus revienne. Que le jour où Jésus va revenir, nous soyons prêts. Plutôt que de nous dire, j'ai mon ticket pour le ciel. Je vais plus en enfer, je vais au ciel. Point barre. Mais non. C'est pas ça. J'ai mon ticket pour le ciel, alors ma vie se transforme pour que je sois toujours plus conforme au Seigneur. Alors qu'est-ce que c'est la persévérance? Qu'est-ce que c'est la persévérance pour se préparer, pour passer les examens? Eh bien, il faut comprendre que dans nos épreuves, ça peut être justement des choses toutes simples de la vie de tous les jours, ça peut être des choix. Je me trouve devant un choix difficile, je peux me dire c'est un test. Le Seigneur me dit pas ce que je dois choisir, c'est bête. Ce serait tellement plus simple. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ou à gauche? Et il dit rien. Alors qu'est-ce que je fais? C'est un test. Je vais plonger dans sa parole, puis je vais voir ce qu'il me dit de ma situation. Et je vais commencer à jauger. Au niveau de la loi, au niveau de ce que dit le Seigneur, est-ce que je suis dans le juste ou bien pas? Au niveau des conséquences, est-ce que ce sera la gloire du Seigneur ou bien pas? Et puis je vais mettre ma foi en action. Seigneur, ces deux choix, ils ont les mêmes enjeux. C'est juste une question de préférence. Est-ce que tu vas encore m'aimer si je me trompe? Est-ce que j'ai foi que l'amour de Dieu ne change pas, quel que soit mon choix? Ça, c'est des tests. Est-ce que je te connais assez pour savoir que de toute façon tu m'aimes? Ça, c'est un test. Ça peut être des petits tests. Quand quelqu'un te téléphone, puis que t'as pas envie, comment est-ce que tu vas lui répondre? Comment est-ce que tu vas gérer? Ça, c'est un test. Il y a des petits tests, il y a des grands tests. Des petites épreuves, des grandes épreuves. Et la persévérance, c'est au quotidien. Au quotidien de toutes ces petites choses et même les grandes choses que nous vivons. Par exemple, Jacques nous parle de demander la sagesse au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bon, on est d'accord, Jacques, il y va pas par quatre chemins, hein. Il y va pas dans la dentelle. Demande la sagesse avec foi que tu vas l'obtenir. Qu'est-ce qui fait que je vais passer le test, que quand je vais demander la sagesse, enfin, je me rends compte que j'en ai besoin, je vais croire que je l'ai obtenue et je vais discerner toutes ces occasions de l'exercer? Eh bien, parce que je vais me plonger dans sa parole. Et si je me souviens de l'histoire de Salomon, quand Dieu lui a demandé « Demande-moi quelque chose », Salomon, il n'a pas demandé les richesses, il a demandé la sagesse. Et quand on voit la réponse de Dieu, on se rend compte que Salomon était en plein dans le cœur de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je ne demanderais pas aussi la sagesse? Je sais que c'est dans le cœur de Dieu. Et il y a tout un livre dans la Bible, un livre de sagesse, les Proverbes. Tout ce livre nous parle de sagesse. Donc si je connais cette parole, je sais que quand je demande la sagesse, c'est juste. Je sais, je demeure dans la parole de Dieu. Alors je sais que si je la lui demande, il me la donne, je mets ma foi en action. Alors je vais commencer à être vigilante dans les situations de mon quotidien. Où est cette sagesse? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce que je me trouve de test en test pour l'exercer et me dire, waouh Seigneur, t'es là, t'es en train de me faire exercer cette sagesse. Ça, c'est un exemple. Tous nos comportements, c'est une préparation aux examens. Les versets 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés et sœurs, ainsi que tout homme et femme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et Jacques continue, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques nous donne les moyens. Il nous dit de nous plonger dans la parole. Il nous dit d'appliquer les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Et ça, c'est un exercice de persévérance pour nous faire passer l'examen, pour que ça produise quelque chose. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, examens, tests auxquels vous pouvez être exposés, sachant que l'examen, l'épreuve de votre foi, produit la patience, la persévérance, l'endurance. Mais il faut que l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans certaines de vos Bibles, il y a marqué « sans manquer de rien ». C'est pas de ne manquer de rien au niveau matériel, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'être parfait, d'être accompli spirituellement, que Jésus demeure tellement en vous, que vous êtes tellement en communion avec lui, que vous lui ressemblez tellement plus davantage, que le jour où il reviendra, vous le reconnaîtrez, que vous serez prêt, que vous pourrez vous réjouir de ce jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas qu'on parle du retour de Jésus, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ont peur, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Mais Jésus a parlé de son retour. Les apôtres ont parlé de son retour. Même Jacques, à la fin de sa lettre, au chapitre 5, il en parle. Le chapitre 5, dès le verset 5. Dès le verset 7, pardon. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et il continue, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et il donne aussi l'exemple de Job qui a fini tellement bien. Job qui a vécu tellement d'épreuves et qui a fini tellement bien. C'est ça le but de la persévérance. C'est ça le but des épreuves, tout ce que nous traversons. C'est que nous soyons remplis du Seigneur. Et comment être rempli du Seigneur? C'est en éprouvant les mêmes sentiments que lui. C'est être disciple du Seigneur. Un disciple, c'est pas juste d'être converti, c'est de vivre comme lui. C'est d'en faire notre modèle. Nous apprendre quels sont les sentiments que Jésus a ressentis. Et comment est-ce que je peux ressentir les sentiments de Jésus en faisant comme lui. Quand je suis victime d'injustice, accepter l'injustice. Quand on me fait du tort, pardonner. Mettre ma foi en action quand j'ai un besoin, croire que le Seigneur est là pour m'orienter, pour me guider, pour répondre à mon besoin, même si je ne sais pas comment. Passer du temps dans la prière avec mon Père. Aller lire tout ce qu'il dit. Je vous ai parlé du sermon sur la montagne. Je vais vous en parler encore. Nos épreuves, elles servent à ce que nous puissions éprouver les mêmes sentiments que Jésus, que le caractère de Jésus soit manifesté en nous. Que à force de persévérance, à force de faire comme lui, nous soyons transformés, nous soyons remplis de lui, que ça laisse toujours plus de place à son Saint-Esprit. Et ça ira toujours mieux. Toutes nos épreuves, toutes nos difficultés prendront moins d'importance parce que la présence du Seigneur sera toujours tellement plus grande en nous. On sera toujours tellement plus accompli qu'on arrivera à les traverser avec une paix toujours plus profonde, cette paix qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi c'est tellement important de mettre la parole en pratique. J'aimerais juste vous montrer quelque chose avec mon ordinateur, je vais le partager sur Zoom. J'y retourne. Excusez-moi. C'est juste, excusez-moi. Je vais partager mon écran. Et puis je laisse juste le temps à Mathilde de diffuser l'écran pour ici à 916, mais à la maison, vous le voyez. Voilà. Je sais que ça fait un petit peu petit. Ça fait... Oh là là. Mais vous voyez au moins qu'il y a deux panneaux. Dans le premier, à gauche, vous avez les versets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Jacques 1, les versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et sur la droite, vous avez Luc 6, 21-23, qui est un parallèle de Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez d'allégresse. Déjà Jésus nous disait, mais quand vous serez dans l'épreuve, à cause de moi, réjouissez-vous. Jacques y fait des parallèles. Dans toute son épître, toute sa lettre, vous pouvez suivre le sermon sur la montagne. Tout ce qu'il dit, il y a des parallèles. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est Jacques. Et dans Luc et Matthieu, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Et ensuite, le verset 12. Là, il est question toujours d'épreuves, mais sous sa forme de tentation. Dans Jacques, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Donc la vie éternelle, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et dans Matthieu, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et des parallèles comme ça, il y en a. Autrement dit, ce que Jacques nous dit, ce sont les enseignements de Jésus. Chaque fois qu'on met en pratique les enseignements de Jésus, on est en train de passer des examens. Et au mieux, de les réussir. Alors voilà ce que j'aimerais vous laisser. Les épreuves, elles sont pas faciles. Elles sont pas marrantes. Mais elles sont encore plus difficiles quand on se les prend en pleine face. Elles sont encore plus difficiles quand on se laisse agresser par elles et quand on est dans la réaction. Mais elles sont plus légères, plus faciles quand on leur donne du sens et qu'on se dit, il y a des tests. Test de voir, mais comment Dieu va agir dans ma situation? Comment est-ce qu'il va me relever? Comment est-ce qu'il va m'aider? Comment est-ce que je vais le voir changer ma vie, transformer ma vie? Pour que nous soyons accomplis, pour que Jésus prenne toute sa place, pour que nous puissions nous réjouir de son retour, de lui ressembler, être toujours plus intime avec lui. Je vais terminer, mais j'aimerais vous faire penser à un chant. Il y a des tas de chants qu'on chante facilement. Mais quand on commence à penser aux paroles, est-ce que dans notre quotidien, on arriverait à les chanter? Ou est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Contempler son visage, c'est aussi de voir comment ce qu'il a réagi dans les épreuves. Et quand les choses de la terre pâlissent peu à peu, c'est nos épreuves qui pâlissent peu à peu. C'est les choses que nous vivons dans ce monde qui pâlissent peu à peu. Parce que Jésus nous remplit. Alors soyez encouragés au travers de vos épreuves. Que ce soit pour les Ukrainiens, chrétiens dispersés, qui vivent quelque chose d'extrêmement douloureux, des épreuves que nous ici, pour la plupart, nous n'avons pas connues, nous ne savons pas ce que c'est. Mais nous avons tous des épreuves. Que ce soit des gens qui vivent des épreuves extrêmes, ou dans nos épreuves de tous les jours, que nous puissions leur donner du sens et laisser le Seigneur venir dans ces situations. Invitons le Seigneur dans nos situations, appliquons sa parole, permettons à Jésus par son Saint-Esprit de nous rendre semblables à lui, de le connaître et de nous préparer à la joie de son retour. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes encouragements. C'est vrai, Jésus, c'est tellement bien de pouvoir louer ton nom, d'être ensemble pour nous approcher de toi. Mais c'est tellement difficile de traverser les épreuves. C'est tellement difficile de persévérer. Et pourtant, quand ton Saint-Esprit nous fortifie, c'est tellement glorieux de te voir agir, de changer les circonstances, de nous édifier en toi. Ô Père merveilleux, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour Jésus, la parole incarnée. Merci pour tous les sentiments que Jésus a vécu sur terre. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Je te demande que chacun d'entre nous, nous puissions saisir ce que ça signifie dans le quotidien de nos vies. Je te demande de nous apprendre à éprouver les sentiments de Jésus. Apprends-nous à être en communion avec toi. Apprends-nous à appliquer ta parole comme tu nous le demandes. Montre-nous, montre le chemin à chacun. Que chacun dans sa course soit persévérant et endurant. Que chacun dans ses épreuves ait sa foi en action. Que chacun dans ses épreuves puisse t'inviter dans ses situations et voir de quelle manière tu agis. Et puisse voir qu'est-ce que tu guéris. Qu'est-ce que tu soulages, qu'est-ce que tu élagues, qu'est-ce que tu émondes. Que tu te glorifies dans chacune des vies. Que ton onction soit sur chacun de nous, Seigneur, que nous comprenions au niveau personnel qu'est-ce que ça signifie pour ma vie. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui a l'impression que ce soit des grosses épreuves ou les épreuves de la vie quotidienne, si quelqu'un a l'impression de vivre ces épreuves en réaction ou en agression plutôt que de leur donner du sens et que vous aimeriez que ça change, que vous aimeriez prendre un acte de volonté, une décision, que maintenant vous voulez donner du sens à vos épreuves, je vous invite à vous lever. Seigneur, merci parce que nous sommes tous témoins les uns des autres, que nous sommes debout devant toi, parce que nous voulons faire de nos épreuves des examens, des tests à passer main dans la main avec toi, pour te connaître toujours mieux, pour être toujours plus rempli de toi, pour vivre, marcher conformément à ta parole, marcher avec ton esprit, pour que tu sois formé en nous. Je demande par la puissance du Saint-Esprit que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je demande le renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse vos cœurs, que le Saint-Esprit remplisse vos entrailles, que vous soyez renouvelés, remplis jusqu'à la plénitude. Que le Seigneur vous donne une révélation par son Saint-Esprit, une révélation dans sa connaissance, un esprit de sagesse qui vous fasse connaître sa volonté, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez comment appliquer cette parole à votre vie, que vos chaînes soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes tombent maintenant, que les verrous de fer soient brisés, que les portes d'airain s'ouvrent, soyez libérés là où il y a des addictions, là où vous ne pouvez pas avancer, que ça cesse dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez renouvelés, soyez transformés, soyez lavés par l'eau de la parole, marchez en nouveauté de vie, marchez avec la puissance de l'Esprit, avec la puissance de la parole chaque jour. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous remplisse, qu'il vous donne les clés dont vous avez besoin, qu'il vous donne les capacités de comprendre, qu'il vous donne les révélations dont vous avez besoin. Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre que tu fais dans chacune des vies. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit, merci de remplir encore mes frères et sœurs. Merci de les encourager, de les conduire sur le chemin de l'éternité. Gloire à toi Seigneur. Oh, la belle chute.